l'Eucharistie, par exemple, pour les chrétiens. Donc, le corps et le sang du Christ, on renouvelle à chaque Eucharistie, on renouvelle, en fin de compte, cette forme de cannibalisme rituel. C'est-à-dire qu'on va... Là, c'est bien sûr, c'est une substitution, mais c'est très important, puisque là, c'est la valeur, c'est les valeurs que, intrinsèques de cette personne, et ici de Jésus. Donc, vous voyez, ça, c'est très, très fort, et c'est presque du quotidien. Dans notre discours amoureux, par exemple, là aussi, nous avons un vocabulaire qui est très, entre guillemets, alimentaire. Hein, elle est belle à croquer. Ok, je vais te dévorer. Enfin, on est vraiment dans ce discours de manger l'autre.
Au niveau métaphorique, mais quand on franchit ce pas, là, on a un tabou fondamental.
Exactement. C'est-à-dire que nos sociétés, notamment pendant toute la période historique, ont combattu ce... Bon, ça a été un des grands tabous, hein, avec l'inceste. On essayait de contrecarrer ce phénomène qui était, d'une façon plus ou moins consciente, qui était quand même très présente au fond de l'homme. Et donc, on a mis des barrières, on a créé des barrières sociétales, on a appliqué des règles, des interdits, des tabous, pour justement contrecarrer ce phénomène. Et donc, je pense que ce qui se passe à un moment donné, si vous voulez, c'est que dans la personne va se passer un phénomène qui va faire tomber ces barrières. C'est-à-dire que là, il va passer, c'est un peu aussi comme le meurtre, hein, c'est-à-dire que il va passer à ce moment-là ces barrières que la société a mises pour se protéger, et donc il va en fin de compte faire ressurgir des choses un peu qui sont un peu enfouies, peut-être quelque part en lui, par une longue histoire. Et je pense que ça, c'est intéressant. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a ce cannibalisme, notamment au niveau de l'endocannibalisme. Donc, c'est-à-dire manger pour dans un but, si vous voulez, funéraire. C'était pratiqué encore très, très récemment par certaines sociétés. Notamment, on s'en est aperçu, vous savez, avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui a montré qu'il y avait des êtres humains encore qui mangeaient encore notamment le cerveau, etc. Donc, humains. Et ça, c'était pratiqué dans cette notion de globalisante de fait que, en fin de compte, c'est aussi une façon d'aimer l'autre, le défunt, le respecter, de prendre ses valeurs. Et que ça, c'était encore dans les années 60, 70, pratiqué dans certains coins du globe. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est un peu... C'est ambivalent, voilà. C'est-à-dire que je pense que le cannibalisme, c'est un peu aussi ambivalent. C'est-à-dire que ça peut être montré comme quelque chose d'un amour extrême, et aussi d'une répulsion, d'une aversion totale aussi pour quand c'est un cannibalisme un peu de vengeance. Vous savez, encore récemment, j'ai lu il n'y a pas encore très longtemps des rapports, c'est affreux. Vous savez que maintenant on appelle en ce moment quand les conflits se passent, on a des fois ce qu'on appelle le cannibalisme de terreur, c'est-à-dire que pour faire passer des choses ou pour contraindre des gens, il y a du cannibalisme qui est imposé. Je veux dire, c'est abominable. Et donc, vous voyez, ça ressort sous multiples formes. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très, très fort en nous et qui a cette ambivalence. Et c'est pour ça que tout le monde, regardez l'intérêt que portent les médias, que nous portons, moi j'assume aussi que je pense à ça. C'est-à-dire que quelque part, on est entre eux vraiment attirant ces répulsions.
Si vous voulez poursuivre la réflexion autour du cannibalisme, je vous propose deux livres de Marie-Hélène Patoumatis, Néandertal.
On va les dévorer.
Néandertal, une autre humanité, paru aux éditions Perrin, et Mangeur de viande, de la préhistoire à nos jours, aux éditions Brochet.
À 3, c'est plus sympa. Format A3.